Bienvenue dans À tes amours, le podcast qui propose une autre manière d'aborder les relations. Nous sommes Adèle,
Alexia
et Sacha.
Et nous allons vous parler notamment d'émotions, de communication, de polyamour et d'autres formes de non-monogamie. Ce podcast s'adresse à toute personne s'interrogeant sur les relations.
Et c'est parti pour notre deuxième épisode de type discussion. Aujourd'hui, on va parler d'étiquette. Et par étiquette, on entend un mot, une désignation, une indication, une appellation générique qui va classer quelqu'un ou un groupe de personnes. Dans un premier temps, on va parler des étiquettes qu'on applique à soi, c'est-à-dire, par exemple, collectionneur, sportive, communiste, et aussi des étiquettes qu'on applique dans le cadre d'une relation. Est-ce qu'une personne est monogame, polyamoureuse, etc. Ensuite, on va parler des étiquettes qu'on applique à sa relation. On parlera d'utiliser des termes comme « en couple » ou « sortir ensemble ». Et enfin, on parlera des termes qu'on utilise pour désigner son amoureux, amoureuse, petite amie, chérie, etc. Alors, allons-y. Quelles étiquettes utilisez-vous pour vous décrire ?
De mon côté, je pense que les étiquettes que j'ai utilisées ont énormément varié avec le temps, mais aujourd'hui, je me qualifie assez facilement de femme asexuelle, végétarienne. Dans certains contextes, je peux même aller jusqu'à dire que je suis naturaliste, parfois un peu punk, ou voire tchad.
De mon côté, j'aime juste faire mon intéressante, et du coup, je considère que j'évite d'utiliser des étiquettes pour me décrire finalement. Je vais plutôt me décrire en parlant de ce que j'aime ou de ce qui me motive ces derniers temps.
Moi, pour me décrire principalement, j'ai volontiers utilisé des étiquettes comme geek, par exemple, malgré les côtés un peu négatifs que ça peut avoir, mais pour me l'approprier. Pour ce qui est de mon orientation relationnelle, j'utilise assez facilement le terme polyamoureux, bien qu'il y ait pas mal de vues négatives autour de ça. Ça me décrit quand même pas mal, je rentre vraiment beaucoup dans l'idée même que les gens vont se faire d'une personne polyamoureuse, je rentre assez bien dans les clous, et donc c'est assez facile pour moi d'utiliser ce terme. Ce qui m'amène au fondement de la question que je veux poser derrière ces étiquettes, c'est pourquoi est-ce qu'on choisit des étiquettes ? Est-ce que ça a des côtés positifs ? Est-ce que ça a des côtés négatifs ? Et en quoi ces côtés positifs et négatifs, ils vont influer sur votre choix d'utiliser ou non une étiquette donnée, de choisir une étiquette par rapport à une autre ?
J'utilise pas trop d'étiquettes pour me décrire en tant que identité, mais c'est plus quelque chose qui m'a aidé sur des questions de ligne de conduite. Par exemple, je pense que je peux parler de l'étiquette végétarienne que j'ai commencé à utiliser à un moment parce que j'avais eu une réflexion sur mes consommations alimentaires et pour diverses raisons, j'avais décidé de ne plus manger d'animaux. C'est pas que je considère que c'est la meilleure ligne de conduite, même par rapport à mes motivations, mais c'est quelque chose de simple, c'est une ligne de conduite facile à tenir, qui me permet à la fois de ne plus avoir à me poser la question tout le temps, parce que c'est hyper fatigant de remettre à chaque fois ses choix de vie en question, et ça me permettait de le dire à d'autres personnes pour qu'elles sachent à quoi s'en tenir avec moi, donc qu'elles sachent que j'avais pas mangé de chair animale et que si on allait déjeuner ensemble, ça allait pas faire partie du repas. Par ça, je veux dire qu'une étiquette, ça, à mon sens, ça peut aider à s'appuyer dessus pour nous-mêmes. Ça nous aide à avoir une ligne de conduite à laquelle on veut se tenir. Et auprès des autres, ça donne l'information sur ce à quoi ils peuvent s'attendre dans nos attitudes.
Je rejoins énormément Alexia sur cette deuxième partie parce que c'est un usage principal pour moi de l'étiquette, de pouvoir communiquer très rapidement aux autres des grandes idées. Et ça rejoint le code de conduite également, c'est que les personnes vont pouvoir se figurer mon comportement assez facilement ou alors vont pouvoir adapter certaines choses. On parlait du régime alimentaire, mais il peut y en avoir sur d'autres sujets. Par exemple, moi, quand je dis que je suis asexuelle, finalement, je cherche aussi à enlever tout un tas de projections qui vont se faire à mon sujet, sur mon corps, sur ma personne, avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc c'est finalement également un moyen, cette étiquette, de mettre à distance tout un tas d'autres étiquettes ou d'autres possibilités qui auraient pu être mises sur moi et dont je ne veux pas. C'est ça pour moi le pouvoir de cette étiquette, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens se fassent une représentation rapide de qui je suis, même si du coup ça a l'inconvénient de venir avec d'autres projections et d'autres raccourcis, vu que c'est un simple mot avec des simplifications.
Je considère aussi, Adèle, t'as parlé de l'étiquette asexuelle, et moi c'est une étiquette que j'ai utilisée à un moment parce que j'avais l'impression qu'on attendait de moi que je sois sexuelle et beaucoup plus que ce que j'étais en réalité. Et ça me mettait une sorte de pression. Et le fait d'utiliser l'étiquette asexuelle m'a permis d'effectivement retirer cette pression et me sentir légitime dans des choix que je faisais au quotidien. Parce que je me cachais derrière, je me cachais entre guillemets, mais j'utilisais cette étiquette pour dire « bah voilà, j'existe de telle manière et j'ai le droit dans ce cas d'avoir telle sorte de conduite ».
Oui, exactement. Et d'ailleurs, bah moi, c'est vrai aussi de certaines étiquettes que j'ai utilisées pour me qualifier dans des contextes différents. Je ne vais pas me qualifier de la même manière dans un contexte professionnel, dans un contexte familial, parce que justement, les étiquettes que je renvoie ont pour but soit de désactiver des projections que les gens vont se faire de moi, ou de revoir les attentes que les gens vont avoir de moi aussi et de mon image. Dans le cadre de ma famille, je disais en rigolant que j'étais une punk pour signifier à mon entourage familial que j'allais rompre avec certains des codes qui m'avaient enseigné en grandissant de par mon éducation et avec lesquels j'étais moins en accord. Ce mot de punk me permettait de leur dire « bah attention, il va y avoir une rupture, ne vous attendez pas à certains des comportements que je n'aurai plus finalement ».
Adèle la rebelle, elle va tout casser.
Dans ce que vous avez dit, vous avez toutes les deux dit, et je trouve que c'est presque ce qu'il y a de plus important dans l'étiquette, ce que j'en retire, c'est que c'est un outil de communication avant tout, et que c'est un outil de communication qui permet de décrire très très rapidement un grand nombre de choses. Et moi j'aime beaucoup l'idée qui dit qu'une étiquette, c'est un moyen très court de véhiculer des choses à propos de soi, et qu'on est d'accord avec le fait de tolérer toutes les idées, toutes les préjugés qui vont venir autour de cette étiquette. Donc il y a du côté négatif, mais on se dit « ok, ça vaut le coup, je donne ce petit bout de mot, ça va te donner plein d'idées en tête, elles vont pas toutes être vraies à 100%, mais je suis d'accord avec le fait que c'est ça l'idée que tu vas te faire de moi. »
Moi j'aurais insisté sur le fait que c'est pas que de la communication avec les autres. Mon propos par rapport à l'étiquette asexuelle que j'avais utilisée, c'était vraiment vis-à-vis de moi-même. Et on peut aussi s'appliquer une étiquette juste pour se dire en fait « ça c'est comment je suis et j'ai le droit d'être comme ça et d'avoir les comportements qui vont avec ».
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est aussi un autre usage, je voudrais dire, des étiquettes. Mais bon, je sais pas si ça a du sens de classifier, mais j'aurais voulu dire que avant tout, l'étiquette, c'est un moyen de communication, mais aussi ça peut servir à d'autres choses, comme effectivement le fait de, je ne saurais pas comment le décrire, mais comme le fait de se donner une ligne de conduite, de se sentir appartenir à une communauté, de se sentir légitimé dans quelque chose.
Ouais, pour moi, cette dernière partie, elle a aussi une importance. Quand j'ai utilisé des étiquettes, c'était pour me donner le droit, généralement, de vivre quelque chose ou de faire quelque chose. En fait, je pense que les étiquettes ont une force particulière pour m'autoriser des choses qui, avant, ne me paraissaient pas possibles à cause d'autres étiquettes que j'avais. Et c'est là l'ambivalence des étiquettes, c'est que à la fois, elles permettent des choses, des nouvelles choses, justement, quand notamment on est en rupture avec une image de soi qui ne nous convenait pas, ou qu'elle nous autorise au contraire à nous aligner avec une image de nous-mêmes qu'on a envie d'avoir, mais elles peuvent aussi devenir enfermantes à un moment donné, puisqu'on va justement vouloir être aligné avec un certain nombre de ces codes ou de des règles qui vont avec. Par exemple, à un moment donné, moi je me qualifiais aussi de geekette, et en fait j'avais pas envie de passer tout mon temps sur un écran et sur mon ordinateur. Et le fait de me labelliser geekette, bah, ça m'autorisait à faire énormément de choses sur ordinateur, mais derrière, ça m'incitait aussi à le faire. Et du coup, j'ai voulu trouver une autre étiquette pour sortir finalement de toutes ces idées que je véhiculais de moi-même aux autres, mais que je me véhiculais aussi à moi-même. Donc les étiquettes, de ce point de vue-là, pour moi, permettent aussi de se décrocher, de se dire « ok, je vais aller m'autoriser un nouveau domaine d'exploration ». Aujourd'hui, je me qualifierais de naturaliste parce que j'ai envie d'étudier la nature. Et donc, je vais facilement me labelliser comme ça pour aller vers ce truc-là et consacrer mon énergie là-dedans.
Je voudrais intervenir sur un autre petit détail. On parle là effectivement des étiquettes qu'on s'applique à soi-même, donc je suis peut-être un peu hors sujet, mais je veux très rapidement parler des étiquettes que les autres nous appliquent, qui peuvent être plutôt positives ou qui peuvent être, comme Adèle l'a dit, complètement enfermantes. On voit parfois, je trouve, dans des groupes d'amis, je sais pas, quelqu'un qui va faire un exploit dans tel truc, je sais pas, sur une course à pied, qui va faire un truc de dingue, et tout le monde va dire « Ouais, c'est la personne la plus sportive que je connaisse et tout ». Et après, ça peut mettre une pression monstrueuse à la personne qualifiée comme telle, parce qu'elle peut avoir peur de décevoir si elle n'est pas à la hauteur des performances sportives qu'on lui attribue, quoi. Mmh. Et donc ça, c'est une étiquette plutôt améliorative. mais ça peut aussi être des trucs un peu insultants où on va dire « Ah, telle personne est crade, elle prend pas soin d'elle, elle prend jamais de douche, j'en sais rien. » Et du coup, la personne va se dire « Bah, enfin, en fait, c'est un vrai mécanisme de manipulation, je crois que c'est considéré comme tel. Si on étiquette un enfant en disant « Ah bah, t'es nul », l'enfant va croire qu'il est nul et il va s'auto-saboter, en fait.
Oui, ça fait partie de ce qu'il y a sur en ce moment la controverse autour des groupes de niveau à l'école. C'est sans rentrer dans la controverse, mais il y a des gens qui vont dire que si jamais on dit à des enfants « Toi, t'es dans le groupe des gens moins bons », eh bien, les enfants, ils vont s'associer avec le fait « Ok, je suis moins bon » et adopter cette étiquette eux-mêmes.
Ouais, complètement.
Donc ouais, pour moi, ce que j'ai envie de retenir de tout ça, c'est que finalement, les étiquettes, elles sont pas toujours choisies. Parfois, d'autres personnes vont nous les appliquer. Par rapport à ça, ça peut poser des problèmes si on n'adhère pas nous-mêmes à cette étiquette-là, ou alors si on commence à se l'approprier alors que finalement, elle ne nous définit pas. Puisqu'une étiquette ne doit justement pas, à mon sens, nous enfermer dans une représentation de qui on est. Ça doit être quelque chose qu'on choisit et qu'on doit pouvoir être en mesure de faire évoluer si on le souhaite. Après, c'est encore une fois uniquement mon point de vue, mais ça peut être rigolo parfois d'avoir des étiquettes posées sur nous qui sont détonnantes, tant que ça nous blesse pas, mais c'est pas le sens principal pour moi des étiquettes.
Je te rejoins tout à fait sur le fait que c'est pas du tout immuable, c'est quelque chose qui peut aider sur un moment et après ça peut changer et on évolue quoi, comme les Pokémon.
Je rebondis sur le fait que c'est quelque chose qui doit être positif, qui doit être un outil qui doit nous apporter quelque chose, être positif, et j'insiste un peu là-dessus, c'est-à-dire que c'est un outil de communication, et en fait, c'est vraiment fait pour s'aider soi, et pas l'inverse, on est censé l'utiliser pour que ça nous aide la vie, pour que ça nous simplifie les choses, et pas pour que ça nous mette des barrières, ou que ça nous mette une liste de critères qu'on serait obligé de remplir. Alors bon, si c'est les autres qui nous l'imposent, c'est encore autre chose, si jamais ils nous écoutent pas quand on leur dit qu'on en veut pas. Mais si c'est quelque chose qu'on décide de s'approprier, de dire « moi je choisis ça », autant que ça soit quelque chose qui nous simplifie la vie et pas quelque chose qui nous la pourrisse.
Après, c'est parfois très compliqué de détecter à quel moment une étiquette ne nous va plus ou nous dessert. En tout cas, personnellement, il y a eu des fois où je me disais « Ah bah super, j'ai une étiquette où je suis très sportive, les gens disent que je suis plutôt fit, etc. » Bah, par exemple, dernièrement, j'ai l'impression d'avoir fait moins de sport, je me suis sentie un peu ronde et j'étais là genre « Au secours, est-ce que du coup je vais garder la valeur que j'ai pour mes amis vu qu'ils ont mis vachement ça en avant ?» Heureusement, quand je leur en ai parlé, ils m'ont rassurée sur cette question, mais c'était pas quelque chose qui était intuitif tout de suite et je me suis sentie un peu mal avant d'identifier que « Ah, peut-être que ça venait du fait que j'avais cette étiquette-là » et que j'étais en train de m'en éloigner un petit peu, mais pour mes amis ou mes proches, je restais dans cette étiquette-là, et donc il y avait une dissonance finalement. Donc voilà, c'est pas toujours simple, mais quand vous le faites, gardez en tête que, a priori, si vous voulez évoluer et changer, vos proches l'accepteront, et qu'une étiquette finalement, elle n'est pas définitive.
Et d'un autre côté, du coup, attention aux étiquettes que vous mettez à vos proches. Éventuellement, vous les enfermez dans un carcan, laissez les gens se définir tout seuls et ne le faites pas pour eux.
Grave. Surtout que, justement, ça peut être trompeur quand on a vécu avec des personnes qui nous sont chères pendant une très grande durée. Ces personnes ont pu évoluer et on le voit pas toujours aussi bien que ce qu'on aimerait. Et donc, on va pouvoir continuer par facilité à utiliser des étiquettes qui, finalement, ne conviennent plus, que ce soit à la personne ou même pour déborder un petit peu sur le futur, sur le lien qu'on a avec elle, etc. Donc, attention à ça et éventuellement à en rediscuter.
Et du coup, d'autre part, si des gens vous étiquettent et que vous n'êtes pas d'accord avec, vous avez le droit de leur dire aussi.
Sur le fait qu'on continue à utiliser les étiquettes au fil du temps, même si les gens évoluent, je crois qu'il existe des études qui montrent que plus les gens vivent ensemble longtemps, et moins, finalement, ils se connaissent plus, ils se font de fausses idées à propos de l'autre. Et donc, c'est peut-être quelque chose à garder en tête, que au fil du temps, on va se dire « Ah oui, cette personne, elle est comme ça, parce que peut-être c'est comme ça qu'on l'a définie il y a 10 ans. » Mais on a toutes les chances d'avoir faux si jamais c'est quelque chose qu'on a gardé en tête depuis 10 ans et qu'on n'a pas reposé la question à la personne.
Donc, discutez avec vos proches, s'il vous plaît. Parlez d'étiquettes avec eux. Nous, on adore parler.
Un autre point sur le côté positif des étiquettes dont on n'a pas parlé et qui est tout à fait vrai aujourd'hui, à l'époque d'Internet, c'est à quel point un mot, aujourd'hui, peut être extrêmement puissant. Notamment, par exemple, sur l'exemple du polyamour, il y a des gens qui vont se sentir un petit peu polyamoureuses sans connaître le mot, etc. Et puis quand le mot arrive, c'est le déclic, c'est génial, parce que notamment, on peut utiliser Internet et ça nous ouvre, c'est la clé, à plein de ressources, plein d'informations, plein de communautés, etc. avec un simple mot, parce qu'il y a les moteurs de recherche, et les moteurs de recherche, ça prend un mot en entrée. Et donc, c'est vraiment très libérateur et très puissant de ce point de vue-là. Une étiquette, ça peut l'être pour les gens.
Oui, ou même dans des bouquins, c'est vrai que relativement, effectivement, au modèle relationnel, moi, c'est grâce à ça que j'ai pu me renseigner sur tous ces sujets. Et finalement, l'étiquette du polyamour ou de l'asexualité a été un point d'entrée pour obtenir de l'information sur ces sujets et savoir, moi, où je me situais sur un spectre qui était potentiellement beaucoup plus large.
On peut aussi parler du côté un peu plus négatif des étiquettes qui sont, notamment si on peut choisir une étiquette qui nous plaît bien, qui nous correspond bien, mais où il y a un certain nombre de préjugés négatifs qui viennent de la société et qui peuvent être d'ailleurs complètement faux. Par exemple, si je dis je suis polyamoureux, les gens ils vont dire ah oui, ça veut dire que toi t'aimes bien tromper les gens, ou que tu tombes amoureux de tout le monde, ou que tu méprises les gens, ou que t'es un sale macho, ou que je ne sais quoi.
Là, tu réponds oui.
C'est exactement moi. Je me définis ainsi. Et nous sommes nombreux.
Est-ce que ça vous a, par exemple, empêché de choisir certains mots ?
Ça influence plutôt où est-ce que je vais utiliser les étiquettes ? Dans quel contexte ? Dans le milieu professionnel, je vais parfois me dire peut-être que je vais pas mettre en avant le côté punk dont j'ai parlé, parce que ça serait peut-être pas très bien perçu si je disais que j'avais envie de respecter aucune règle. En revanche, dans le contexte familial, ça m'était utile. À l'inverse, il y a des étiquettes que je vais pouvoir utiliser partout sans qu'il y ait spécialement d'aspect négatif, mais j'irais pas dire à un congrès où il y a énormément de gens qui parlent de viande et de saucisson que je suis végétarienne. C'est pas ça que je vais choisir de mettre en avant parce que bah, je sens que ça va faire venir sur le tapis des discussions que j'ai pas forcément envie d'avoir dans ce contexte-là, ou que ça va amener une nécessité de justification ou d'explication de l'étiquette. Et pour le coup, justement, l'étiquette dans ce cadre-là n'est plus utile vu qu'elle ne permet plus un raccourci, elle ne permet plus une simplification de la communication.
Moi, je crois que j'ai pas trop souffert de trucs négatifs qui venaient avec les étiquettes. Peut-être que j'ai juste de la chance et que je suis entourée de gens qui vont pas accoler des trucs trop négatifs aux étiquettes que j'ai choisies. Mais c'est pas quelque chose auquel j'ai été confrontée. Effectivement, si j'ai la flemme, je vais éventuellement ne pas sortir les étiquettes parce que j'ai pas envie d'être confrontée à des questions. Mais la plupart du temps, j'aime bien qu'on me pose des questions, donc je sors les étiquettes dans n'importe quel contexte. Et au congrès du saucisson, je veux dire que je suis végétarienne et on peut en parler.
Après, peut-être que le congrès du saucisson, il s'agit de est-ce que j'ai envie de rentrer dans le débat ou non avec les gens, et ça, c'est un point qui est complètement valide.
Je pense qu'il y a aussi une affaire de... Quand on sort une étiquette, les gens vont penser qu'on remet en cause leur choix de vie à eux, en leur exposant nos choix de vie. Et je pense que je désamorce ça assez vite en disant, bah, je choisis ça, non pas que je considère que ce soit absolument la bonne chose à faire, c'est juste mon choix de vie... Et voilà, et du coup, les gens le prennent pas comme je suis en train de les insulter et dire il faut pas manger du saucisson dans l'absolu, quoi.
Je pense que c'est intéressant de déjà savoir que si, par exemple, on dit je suis polyamoureux, de savoir que des gens peuvent penser que, en disant ça, tu voudrais dire que tu te considères supérieur à eux d'une certaine manière, ou alors qu'ils vont penser que t'es quelqu'un qui respecte pas les gens pour une raison quelconque. De savoir que ces a priori négatifs puissent exister pour éviter de se faire surprendre.
Ouais, notamment pour moi, j'ai l'impression que sur les questions de polyamoureux, t'as vraiment... polyamoureux, ah, ça veut dire que t'es forcément intéressé par tout le monde et disponible pour n'importe qui, tu vois. Et ça, effectivement, c'est à désamorcer en fonction de la personne qui est en face aussi, je pense.
Oui, alors que de la même manière, moi, ça a pu m'arriver d'utiliser l'étiquette de « en couple » pour mettre à distance des personnes, alors même que j'étais en relation ou pas, ou j'étais en polyamour ou pas, on s'en fiche. Mais je disais « ok, je suis prise pour entraîner, ouais. Désamorcer les velléités des personnes en face de moi et qu'elles s'imaginent pas qu'elles allaient pouvoir flirter avec moi et finir avec moi en couple ». C'était un peu « j'utilise cette étiquette ». Même si c'est peut-être pas bien, mais c'est pour me servir dans un contexte très particulier.
Mais ça, c'est un vrai truc aussi pour des meufs qui ont envie de se débarrasser d'un relou. Et en fait, où on peut pas leur dire « je suis pas intéressée » parce qu'ils vont pas l'entendre. On peut dire « j'ai un copain » et c'est tout en fait. Et on peut utiliser cette étiquette comme défense alors qu'elle est fausse éventuellement. Ou alors « j'ai un copain et je pourrais en avoir d'autres, mais ça, je vais pas le dire ».
Après, il peut y avoir des controverses autour de l'éthique de ces des outils qui sont pour le coup efficaces, donc pertinents. Et il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire sur les étiquettes qu'on s'applique, mais on va passer à la suite de nos sujets. Maintenant, on va parler de quand et comment on choisit de mettre une étiquette sur sa relation. C'est-à-dire que quand on fait des choses avec quelqu'un, ou qu'on est quelque chose avec quelqu'un, quand est-ce qu'on décide de dire « Ah, là, nous, on est en couple, et c'est ce qu'on utilise le terme « en couple » ou est-ce qu'on utilise le terme « sortir ensemble » ou le terme, je ne sais pas, « sex friends » ou... Quand est-ce qu'on utilise ces choses-là ? À quoi ça sert ? À qui ça sert ?
Alors, on l'utilise quand la question se pose pour quelqu'un, et comment on définit ? On le définit dans la douleur et les larmes. Non, c'est pas vrai, mais il faut faire un tour des envies et des besoins de chacun, de ce que signifient les étiquettes, j'imagine. Et après, bon courage, quoi.
En fait, effectivement, il y a des mots qui viennent assez naturellement. Moi, je les applique plutôt à des surnoms. En fait, j'ai de l'affection, j'ai envie de le manifester, et du coup, il y a des mots qui me viennent, qui peuvent être des étiquettes ou qui peuvent ne pas en être du tout. Derrière, effectivement, je vais vérifier si ça convient à l'autre, si ça amène une autre étiquette sur qu'est-ce qu'on est l'un par rapport à l'autre.
T'as des exemples de ce genre de trucs ?
Par exemple, on a utilisé un mot beaucoup dans un cercle de relations où on s'appelait les uns les autres bébés. Et je sais que ce mot-là peut être utilisé parfois par des personnes pour qualifier leur relation amoureuse. Et en fait, là, moi, c'était un aspect d'affection. Le truc, c'est que ça peut être un peu infantilisant, donc il faut vérifier si l'étiquette va ou pas à l'autre, par exemple, dans ce contexte-là. Et c'est des choses qui ont pu être discutées, et je me suis rendu compte que ce mot était tellement utilisé dans un de mes cercles que je me mettais à l'utiliser dans des cas qui n'étaient pas forcément appropriés pour utiliser ce mot-clé. Et par ailleurs, dans le début, ce mot-clé, il ne m'allait pas. Je n'aimais pas cette étiquette non plus, je n'aimais pas appeler les gens bébés, mais ça m'était devenu un mot familier et réconfortant parce qu'il était beaucoup utilisé par des personnes dont j'étais proche. En fait, dans ce mot transparaissait pour moi une forme d'affection, d'amour, de respect qui était peut-être pas du tout compris comme ça par les gens à côté.
Spéciale dédicace à Mélissa qui est dans notre cercle d'amis et qui nous a fait tous dire bébé.
Et il y a ces surnoms ou ces mots qui en fait vont venir dans la discussion d'une manière un peu naturelle, mais qui sont pas forcément de l'étiquetage en tant que tel pour moi, parce que en fait c'est des mots qui peuvent être utilisés dans plein de contextes et qui ne signifient pas forcément ce que les gens comprendraient naturellement par l'étiquette. Et puis à côté, sur quand labelliser une relation, son partenaire ou autre, moi j'ai pas de réponse à ça, je suis encore en questionnement vraiment par rapport à ça. En revanche, ce que je peux dire, c'est que parfois je n'ai pas mis d'étiquette et je me suis retrouvée dans des contextes extrêmement gênants. Parce que, par exemple, j'invite cette personne dans ma famille et ma famille peut se dire « Ah, et du coup, c'est ton amoureux ?» Et je savais pas si je devais dire oui, non, peut-être, si ça allait potentiellement vexer la personne avec qui j'étais venue dans la famille. Parfois, malgré nous, on va être mis face à des situations où on a besoin d'étiqueter et où on n'y a pas réfléchi. Et je trouve ces situations toujours un peu gênantes. Donc maintenant, j'essaye de les éviter en demandant à la personne avec quoi elle est à l'aise pour présenter notre lien ou pour la présenter elle en tant que personne. Et donc, sur comment l'étiqueter auprès des autres si je sais qu'on va avoir un événement où on va potentiellement être amené à devoir se présenter.
Ouais, donc là, t'es arrivé exactement sur le point que j'aurais abordé, c'est-à-dire... Dans mon cas, j'ai pas tellement besoin d'étiquette dans la relation. J'ai l'impression d'être assez à l'aise sur la discussion des besoins et envies avec la personne en face pour ne pas utiliser d'étiquette. En disant ça, je considère qu'une étiquette, elle peut venir avec un lot d'attentes. Elle peut constituer une sorte de contrat de relation sur lequel on s'attend à ce que la personne, elle agisse comme ci ou comme ça avec nous. Moi, j'ai l'impression d'avoir des discussions assez explicites / exhaustives avec les personnes avec qui je suis proche. Et donc, j'ai pas tellement la question d'étiquette, c'est en tout cas pas important pour moi. En revanche, il peut y avoir des personnes autour qui vont nous étiqueter et nous dire « Bah, vous êtes en couple ?» Moi, je suis là genre « Je sais pas, est-ce qu'on est en couple ?» Et en fait, je m'en fiche. Ou effectivement, un contexte où tu veux présenter quelqu'un et t'es là « Est-ce que je dis que c'est un ami ?» Sachant que c'est pas exactement ton sentiment, est-ce que tu dis que c'est une amoureuse ? sachant que ça correspond pas à ce que les gens se font éventuellement du pack amoureuse. Donc ouais, pour moi les étiquettes, c'est les étiqueter la relation, c'est vraiment quelque chose de difficile vis-à-vis des autres, plus que vis-à-vis des personnes avec qui j'ai l'impression d'être proche.
Bah, t'as dit un truc intéressant qui est que avec les étiquettes viennent des attentes, et on a déjà parlé dans nos épisodes Notion de l'escalator relationnel. Et les étiquettes, ça fait partie de l'escalator relationnel. L'escalator relationnel, pour rappel, ça veut dire que c'est un script sociétal où, en fait, quand on commence une histoire avec quelqu'un, eh bien, on commence par faire des rencontres amoureuses, puis coucher ensemble, puis utiliser une étiquette, justement, de dire on est en couple, et ensuite présenter à la famille, ensuite vivre ensemble, etc., etc. Et donc, cette étiquette, elle fait partie des attentes, et donc certaines personnes vont éventuellement se dire, tant que je n'ai pas l'étiquette en couple, par exemple, cette relation n'est pas importante. Et donc, je pense que c'est important de garder en tête que pour certaines personnes, cette étiquette, c'est quelque chose d'important qui peut venir valider une relation. Et inversement, garder en tête que si jamais on utilise l'étiquette en couple pour une raison ou une autre, parce que c'est quelque chose qui est important pour quelqu'un à l'intérieur de la relation ou même quelqu'un qui est à l'extérieur de la relation, comme vous en avez parlé, la famille ou des choses comme ça, que lorsque cette étiquette, elle va être posée, eh bien, c'est probable que ça fasse changer la relation. Juste de mettre ce mot là-dessus, ça va faire que les gens disent « Ah, maintenant qu'on est en couple, eh bien, il faut que je t'appelle tous les jours. » J'en sais rien, quel autre truc qui viendrait
ouais,
implicitement.
Ouais, cet aspect-là, moi, je l'ai vécu avec une de mes relations récemment où, en fait, on a fait le choix à deux de pas se mettre d'étiquette parce que on n'avait justement pas envie que la relation, on mette des projections à partir de l'étiquette qu'on allait définir ensemble, même si on la définissait ensemble. Et c'est ça qui est assez fort avec les étiquettes, c'est que quand bien même on l'a choisie ensemble, il peut quand même y avoir des attentes ou des projections. Moi, je rapproche vraiment de l'éducation que j'ai eue. Et en fait, oui, je pense que j'ai fait des erreurs, du coup, moi, quand je suis passée au polyamour, parce que j'utilisais des étiquettes comme partenaire, par exemple, et en utilisant cette étiquette, venait quand même l'escalator relationnel, dont je voulais me détacher et qui ne correspondait pas à, finalement, l'expérience que j'avais envie de vivre avec ces personnes. Et c'était très difficile, même si on avait choisi l'étiquette ensemble de partenaire ou une autre étiquette, de ne pas faire cette projection. Et je m'en étais rendu compte en utilisant, dans une de mes relations, une étiquette différente qui allait à l'encontre de l'escalator relationnel volontairement et qui était comète, dont le principe, c'était de dire c'est une relation qui va s'inscrire dans une temporalité particulière, qui ne vise pas à construire spécialement quelque chose sur la durée. Et oui, du coup, en fait, les étiquettes peuvent être piégeuses, quand bien même elles sont choisies en accord avec la personne impliquée.
Pour rappel, une relation comète, c'est quelqu'un qu'on va voir vraiment de temps en temps, c'est une relation qui s'inscrira pas dans le quotidien.
À propos des étiquettes qu'on met sur une relation, il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu théorique ou un petit peu linguistique, c'est la différence entre une étiquette qui va être descriptive ou prescriptive. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces mots ? Une étiquette descriptive, ça veut dire que l'étiquette, elle vient juste décrire un fait qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il se passe des choses et on dit « Ah bon, en vue du fait qu'il se passe ça, eh bien on va appliquer ce mot là-dessus. Donc je vois que la situation c'est ça, et ensuite on va à partir de là choisir un mot qui convient. Alors qu'une étiquette prescriptive, ça se passe dans l'autre sens, c'est-à-dire que je choisis d'abord la relation, je dis maintenant nous sommes en couple, et de ce mot découle tout le reste. Puisque nous sommes en couple, alors par exemple, puisque nous sommes en couple exclusif, alors nous n'avons plus le droit de coucher avec d'autres gens, puisque le couple est exclusif et le mot a été choisi avant. Et puisque nous sommes amis, par exemple, alors nous ne pouvons pas coucher ensemble, parce que les amis ne devraient pas coucher ensemble, par exemple. La différence entre les deux est importante, c'est important de savoir que ça existe, et de déterminer si, pour nous, lorsqu'on choisit une étiquette, est-ce qu'on choisit cette étiquette d'une manière descriptive, se dire « oui, c'est vrai que ça fait un mois qu'on se voit tous les soirs, alors peut-être on pourrait dire qu'on est en couple », ou est-ce que cette étiquette est prescriptive ?« Ah, ça fait 3 dates qu'on passe ensemble, maintenant je voudrais que les choses deviennent sérieuses, alors soyons en couple, et toutes les choses qui vont autour de « en couple », qui sont par ailleurs des choses assez floues, vont découler de ce terme « en couple ». On peut être dans un entre-deux, mais voilà, c'est quelque chose d'important. Et donc, pour les étiquettes qui sont prescriptives, c'est-à-dire choisir le mot en couple et que ça définit tout le reste derrière, faites attention à ça, puisque on l'a vu dans l'épisode 2, que la monogamie, c'est quelque chose d'assez flou, qui a un certain nombre de composantes. Et donc, si on se dit, oui, nous avons choisi cette étiquette prescriptive de dire, nous sommes en couple, et donc, tout le reste devient évident, il n'y a plus besoin d'en parler, eh bien, c'est la porte ouverte à des décalages sur les attentes. Dans tous les cas, peu importe l'étiquette que vous choisissez, que ça soit prescriptive, descriptive, n'importe quelle étiquette, ça remplacera pas une vraie discussion sur le cadre de la relation.
Ouais. Après, j'imagine que les étiquettes sont souvent un petit peu des deux, en fait. Un petit peu descriptive et un petit peu prescriptive aussi. C'est ce que Adèle désignait en parlant des attentes qu'il pouvait y avoir derrière et des carcans dans lesquels on pouvait s'insérer tout seul, quoi.
Oui, et puis par ailleurs, il n'y a pas forcément de mauvaise chose en soi à vouloir une forme de projection et utiliser un mot pour véhiculer tout un tas de projections qu'on aimerait mettre sur la relation. Ça n'a rien de mauvais en soi. La chose sur laquelle veut insister Sacha, je crois, c'est que ça n'est pas suffisant, qu'il faut vraiment initier des discussions qui vont permettre d'approfondir justement toutes ces dimensions à vivre avec l'autre à partir de cette étiquette. On peut très bien dire, à partir de maintenant, j'aimerais construire quelque chose avec toi et donc j'aimerais qu'on se labellise en couple, mais venir étoffer en disant, bah, par exemple, en vivant plus de temps ensemble, en tête à tête, ou par exemple, à terme, en vivant ensemble, parce que c'est quelque chose que j'aimerais très fort. Mais il faut l'expliciter et en rediscuter avec le temps.
Ouais, dire ce que ça veut dire pour toi, j'ai envie de rencontrer ta famille ou j'ai envie de qu'on puisse partir en vacances ensemble avec mon groupe d'amis ou des trucs comme ça, quoi.
Oui, et je confirme qu'il n'y a aucun jugement de valeur sur le fait d'utiliser une étiquette plutôt descriptive ou prescriptive. Il n'y a aucun problème à se dire, ok, moi, je veux qu'on parte du terme en couple ou même allant plus loin, du mariage, et donc tout ce qui découle du mot mariage va s'appliquer à nous. Si tout le monde est d'accord avec ça, c'est très bien, il n'y a absolument aucun problème.
Le complément, c'est que finalement, une étiquette, comme elle peut ne pas avoir le même sens et les mêmes projections pour tout le monde, il faut vraiment en discuter pour permettre de comprendre finalement ce que l'autre veut quand il met une étiquette ou ce que nous, on cherche à demander à l'autre à travers cette étiquette. Moi, souvent, quand je mets une étiquette, ça sert un but. Je disais tout à l'heure que je me servais de l'étiquette asexuelle. Je l'utilise pour dire aux gens... Finalement, si vous voulez construire une relation autour de la sexualité, c'est probablement pas moi la bonne personne avec qui la vivre. De la même manière, quand je me présente comme végétarienne, je renvoie cette information aux autres pour leur dire « ne me faites pas manger de viande, s'il vous plaît, parce que, a priori, je ne vais pas en manger, mais il y a souvent des loupés. » Et même sur cette étiquette, souvent les gens vont penser que je mange du poisson. Et donc, c'est à moi d'aller expliciter, vu que l'étiquette ne suffit pas, et de dire, finalement, pour les relations, c'est la même chose. Et pour moi, c'est très, très, très compliqué de labelliser une relation, parce que je pense que je sais pas très bien ce que veulent dire les étiquettes pour les gens. je sais pas si je suis en accord avec. J'ai envie d'avoir de la complicité, donc si la personne veut m'appeler son amoureuse, je serais très contente parce que j'aurais l'impression que c'est quelque chose qui signifie qu'on est d'accord sur le fait qu'on partage une intimité. Donc ça me plaît pour ça, mais c'est vrai que ça me fait peur sur d'autres dimensions parce que je ne comprends pas toujours quelles attentes vont aller avec cette étiquette. Et s'il y a une hiérarchisation derrière, parce qu'on vit quand même dans une société qui a tendance à classer, entre guillemets, les liens, en disant le lien amoureux, il est au-dessus des liens amicaux. Les liens familiaux, je ne sais pas très bien où est-ce qu'ils sont mis dans la hiérarchie, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une hiérarchisation qui vient avec les étiquettes. Et moi, elle me dérange parce que c'est pas forcément ça que j'ai envie de mettre en avant quand j'étiquette les gens. J'ai juste envie de leur signifier qu'ils ont une importance pour moi, qu'ils jouent un rôle dans ma vie. Que ce rôle, il peut toucher plus particulièrement certaines composantes. Oui, du coup, quand je vais dire à quelqu'un mon cœur ou mon amour ou je sais pas quel autre mot je pourrais utiliser, c'est avant tout pour lui dire je te trouve importante, tu es importante pour moi, que pour l'enfermer dans un rôle d'amoureux, amoureuse, parce que je sais pas trop ce que ça veut dire.
Oui, t'as dit un truc important là, qui est que effectivement les étiquettes ont pas le même sens pour tout le monde. Et que donc c'est très très important d'en discuter. Moi je considère que ça peut être un bon point de départ. Par exemple, un couple existe et quelqu'un arrive et dit « Ah, j'aimerais qu'on soit un couple ouvert maintenant », ça peut être un bon point de départ pour lancer la discussion, mais ça veut pas dire que c'est censé se suffire à soi-même, juste dire « couple ouvert, ok, tout le monde a compris, on passe à autre chose ». Enfin, si les deux disent oui, enfin bref, c'est un point de départ pour qu'ensuite les personnes impliquées dans la relation puissent déterminer ce qu'elles veulent. On va passer à la dernière partie qui parle des étiquettes que l'on applique à ses partenaires. Donc on en a légèrement parlé tout à l'heure, par exemple le fait d'appeler les gens autour de nous bébé, par exemple. Mais ça peut être, est-ce qu'on dit aux gens que c'est mon amoureux, mon amoureuse, mon chéri, partenaire, mon copain, ma petite amie, etc. Qu'est-ce qu'on utilise comme terme ? Est-ce que ces termes on utilise pour nous, pour l'autre, pour les gens à l'extérieur de la relation ?
Ouais, je pense que ça a vraiment un usage, notamment auprès de ma famille ou auprès de mes collègues, si j'introduis quelqu'un, d'avoir un mot pour signifier quelle attache cette personne a vis-à-vis de moi. J'ai même récemment dû remplir un... J'ai commencé un nouveau travail. J'ai dû remplir un formulaire de personnes à contacter en cas d'urgence. Et en fait, il y avait le lien à ces personnes dans le formulaire. Et j'étais hyper confuse parce que je savais pas forcément quel qualificatif je voulais mettre sur ces personnes et comment je voulais les appeler.
Et la meuf en crise existentielle devant le truc.
Un peu, ouais. Non, mais je me suis énormément questionnée et je me suis dit, bah, si je mets amie, les gens vont se représenter une relation justement potentiellement moins importante que ce qu'elle est en réalité pour moi. Et du coup, est-ce que si la relation en question est au courant que je l'appelle mon amie, est-ce que elle sera d'accord? Est-ce qu'elle sera fâchée? Est-ce qu'elle sera au contraire contente? Ou est-ce qu'elle reverra sa manière de se positionner par rapport à moi? Enfin bref, il y avait pas mal de questions, mais du coup... Je vois toute l'importance que ça a de qualifier les personnes avec une étiquette pour les présenter aux autres, parce que souvent, le lien qu'on va avoir à quelqu'un, il est important pour les autres de le définir et qu'il rentre dans une case. Et ça, c'est à la fois pratique, justement, pour rapidement que la personne, en cas d'urgence, elle puisse appeler la personne et savoir si c'est ma maman, si c'est quelqu'un que j'ai choisi dans mon entourage. Mais c'est aussi problématique parce que bah moi je sais pas toujours comment définir les gens autour de moi. Du coup, je sais pas quel qualificatif utiliser, j'étais bien embêtée.
Effectivement, c'est hyper difficile pour moi aussi dans de nombreux cas de parler de quelqu'un et de dire OK, je dois dire que c'est mon ami ou mon amoureuse ou je sais pas trop. Et très rapidement pour les gens autour de moi, je donne tout de suite les prénoms des personnes dont je vais parler souvent. Et je sais pas comment je me débrouille exactement, mais je donne le prénom très vite. Mais quand t'as parlé du questionnaire, là, je me dis, on devrait inventer un mot, genre, si on te demande le lien, tu dis, oh, c'est mon spoopsy. Et voilà. Les gens, ils sont là, c'est quoi spoopsy? T'es là, genre, c'est spoopsy.
En soi, c'est une stratégie qui a été utilisée un peu différemment par d'autres de mes relations, justement. J'ai une relation qui utilise le mot collègue pour parler de tout le monde. C'est une relation qui est empreinte d'un sens. Les gens, ils vont potentiellement se dire « Ah ouais, c'est bizarre, il est entouré de beaucoup de personnes professionnelles dans sa vie. Mais
moi, ça avait ça, j'étais « Mais vraiment, il a vraiment beaucoup de collègues, quand
!» Ouais, ses collègues, ils habitent partout en France et à l'international aussi. Mais attends, quelle est exactement la taille de sa structure? Voilà, j'ai connu d'autres personnes qui, par simplicité, disaient « amis pour tout le monde », sauf pour leur famille. Enfin, c'est variable. Moi, j'avoue que si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'écrire sur comment vous qualifiez vos relations, parce que je suis en recherche de mots et Alexia et Sacha savent comme je suis mauvaise quand il s'agit d'inventer des nouveaux mots. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions.
Pour donner un petit peu l'état de l'art, comme on pourrait dire, aux gens qui ne sont pas dans la communauté polyamoureuse, c'est un problème d'ailleurs qui est particulier aux communautés non monogames, puisqu'en fait, les gens qui sont monogames, ils vont juste dire mon copain, ma copine, mon mari, ma femme, de manière assez simple, et ça veut tout dire, les gens ils ont compris derrière, les choses sont assez simples. Mais dès qu'on s'éloigne de la norme, et par ailleurs les gens qui ont des relations monogames peuvent aussi s'éloigner de la norme d'une manière ou d'une autre, mais dès qu'on s'éloigne de la norme, c'est là que ça devient compliqué. Dans la communauté polyamoureuse, un terme qui est beaucoup utilisé, c'est le terme amoureux ou amoureuse, et de dire « ah, mon amoureux, mon amoureuse » pour désigner ses partenaires. Il y a le terme partenaire aussi. Et donc voilà, ces termes sont utilisés, mais ils ont leurs problèmes. C'est-à-dire que partenaire, on peut se dire, ah, est-ce que c'est pas trop informel? Moi, je trouve que amoureux, ça fait un petit peu enfantin. Il existe le terme chéri, qui a une très belle définition, qui veut simplement dire tendrement aimé. qui peut s'appliquer aussi bien aux amis, aux partenaires romantiques, aux gens de sa famille aussi éventuellement. Donc le terme chéri est finalement peut-être celui qui devrait être à privilégier, même si moi je ne sais pas, il me fait un petit truc, peut-être qu'il faut que je me jette dans le bain et que je commence à l'utiliser. Peut-être parce que c'est ma mère qui l'utilise beaucoup, qui dit mes chéris en parlant de ma sœur et moi.
Ou peut-être ça fait penser à du chocolat avec de la liqueur dedans et c'est un piège, c'est chocolat.
Ah, je suis d'accord avec toi que moi le terme chéri, j'ai une gêne aussi. Alors je sais pas d'où elle vient parce que initialement le mot, la signification du mot me plaît aussi. Donc ce serait intéressant. Après moi je sais que j'ai vraiment essayé parfois des mots totalement sortis de nulle part pour qualifier mes relations, mais ça même quand j'étais en monogamie, je me souviens d'avoir pris des mots totalement impromptus. Par exemple, avoir dit « mon chou de Bruxelles », tu vois, pour je sais pas trop quelle raison. Justement, peut-être pour tourner en dérision les mots un petit peu mielleux utilisés généralement dans le langage amoureux, où on va dire « cœur »,« amour », et bah du coup l'avoir totalement dérivé pour introduire finalement du rire, de la complicité et un autre chose, et ne pas se limiter à ce que l'étiquette signifiait réellement.
Sur un autre truc, j'aimerais bien dire... Une petite astuce, encore une fois, pour faire mon intéressante, c'est que j'utilise pas mal le terme « amoureux » auprès de personnes avec qui je parle, et je vais pas dire « c'est mon amoureux », je vais dire « c'est un amoureux ». Et ça fait très bizarre à l'oreille des gens qui baignent pas dans les milieux non monogames. Ça va interpeller, ils vont faire « comment ça, un amoureux ?» parce que ça sous-entend que j'en ai d'autres. Et du coup, c'est un moyen pour moi éventuellement d'annoncer, de mettre un indice sur le fait que je suis en relation non monogame, quoi.
Alors là, tu ouvres la porte de l'adjectif possessif, qui est toute une question où moi j'ai essayé de creuser parce que je me suis posé la question. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que on peut utiliser l'adjectif possessif ? Donc l'adjectif possessif, hein, c'est le terme qui veut dire mon, ma, mes, etc. C'est ça qu'on appelle l'adjectif possessif. Pourquoi est-ce que dans certains cas on peut l'utiliser et pourquoi dans certains cas on peut pas l'utiliser ? Pourquoi est-ce que quand on dit c'est ma voiture, on pourrait le dire alors qu'en fait j'ai deux voitures ? Pourquoi est-ce qu'on dit c'est ma copine, c'est évident que j'en ai qu'une seule ? Si on peut dire c'est ma sœur, ça c'est bon, ça passe. Et du coup j'ai posé la question à des gens qui ont fait des études de linguistique par exemple ou ce genre de choses, et il semblerait que l'adjectif possessif n'est censé être utilisé que si on en a qu'un seul normalement. Et donc peut-être que ça serait un abus de l'utiliser pour ma voiture alors que j'ai deux voitures parce que je suis tellement riche que j'ai plusieurs voitures. Mais c'est faux, j'ai zéro voiture. Mais par exemple, moi, j'ai qu'une seule sœur, mais je sais que les gens qui ont plusieurs sœurs, ils vont dire ma sœur alors qu'en fait, ils en ont deux.
Ouais, en fait, je crois qu'effectivement, linguistiquement, on devrait dire une de mes sœurs. Mais c'est lourd et donc les gens vont dire oui, c'est ma sœur dans un... souci de raccourci.
Je pense que ça dépend aussi du contexte. Par exemple, enfin, tu peux utiliser l'adjectif possessif quand tu veux signifier que l'objet t'appartient. Par exemple, s'il y a un stylo qui traîne et on dit « c'est à qui ce stylo ?» Je veux dire « c'est mon stylo », je vais pas dire « c'est un de mes stylos
». Ouais, complètement. Et bah, là, par contre, dans les relations, je trouve que ça devient un peu problématique vu que la personne ne t'appartient jamais, quand bien même c'est une relation exclusive. Et donc, c'est un petit peu délicat pour moi d'utiliser le possessif. D'un autre côté, je sais que je le fais parfois pour... je sais pas trop pour quelle raison, si c'est par habitude, si c'est par projection, parce que beaucoup de gens autour de moi l'utilisent par mimétisme. Mais je sais que je le fais et que ça m'arrive d'appeler des amis mon beau, ma belle, mon cœur,
mon bébé,
plein de choses. Alors que ces personnes ne m'appartiennent pas du tout. Et donc c'est pas ce que je veux véhiculer. Je veux véhiculer une forme de proximité, je pense. Et je serais intéressée de modifier ma communication et de passer à des articles indéfinis, comme le faisait Alexia, et dire. Tu es un bébé. Non, ça, ce serait peut-être interprété encore différemment. Mais bref, vous avez compris l'idée.
Moi, j'utilise plein de trucs amélioratifs. Genre, je vais dire adorable, je sais pas quoi, tu vois, adorable chérie ou des trucs comme ça.
La critique de la possessivité qui vient avec l'adjectif possessif, c'est quelque chose que j'ai entendu un certain nombre de fois. Mais pour moi, l'adjectif possessif, et pour moi et pour... la linguistique en général, l'adjectif possessif, ça ne veut pas dire forcément qu'on parle d'une possession. Quand je parle de ma photo, ça peut tout aussi bien désigner une photo que je possède, ou une photo qui me représente, ou une photo dont je suis l'auteur. C'est complètement les trois. Quand je dis mon patron, ça veut pas dire que je possède mon patron. C'est l'inverse.
Ah, si moi je possède mon patron.
Oh waouh.
Quand je dis mon bourreau.
Non mais effectivement, tu qualifies un lien vis-à-vis de toi. En fait, c'est pour dire ce lien-là, il explicite un relationnel par rapport à moi. Ma sœur ou mon frère, effectivement, il n'y a jamais question que vos frères et sœurs vous appartiennent, mais qu'il s'agit du lien que vous avez avec ces personnes. Après, pour autant, je trouve qu'il y a aussi une utilisation parfois de ces possessifs dans le langage qui peuvent être effectivement interprétés comme étant la possession et avec laquelle moi je ne souhaite pas m'associer. Donc effectivement, je préférerais malgré tout passer par d'autres qualificatifs ou alors, encore une fois, créer de l'ironie par rapport à ça et en faire 3 tonnes pour bien montrer à la personne en face que je ne considère pas que la personne m'appartient. Ça m'est arrivé de faire des surnoms du type « mon cœur d'amour en sucre, de canne, de qualité bio supérieure », enfin, je sais pas quoi. Et en fait, c'était totalement pour bien faire valoir qu'il fallait pas s'arrêter au possessif et que je considérais pas que le lien que j'avais avec cette personne rentrait potentiellement dans tout ce qui est véhiculé par le romantisme au sens large par rapport au code du langage amoureux dont d'autres personnes ont fait l'analyse bien mieux que moi.
Après, je pense que c'est encore une fois quelque chose qui est complètement explicité dans la relation. Si ça se trouve, quelqu'un va beaucoup apprécier le fait que la personne en face dise mon cœur, et ça sera très réconfortant pour une personne de recevoir ce surnom. C'est OK en fait. Enfin, ça peut être. Enfin, pour moi, ça peut très bien être explicité dans la relation, et on n'est pas obligé de te dire ouh là là, c'est possessif, et je dois surtout pas avoir de trucs possessifs envers la personne en face. C'est important d'y faire attention. Mais voilà, ça peut être OK de l'utiliser quand même.
Et indépendamment du possessif ou pas, dans tous les cas, c'est important de parler des étiquettes qu'on va utiliser avec l'autre. Comme on parlait tout à l'heure du fait que c'est des étiquettes qu'on va devoir sortir parfois à l'improviste devant sa famille, c'est important dans tous les cas, avant d'utiliser une étiquette en public, d'en avoir parlé. Est-ce que cette étiquette te va ? Est-ce que t'as envie d'une étiquette aussi ? C'est une question importante.
Et dans cette discussion, il peut aussi y avoir une importance prêtée à est-ce que l'étiquette doit être réciproque ? Est-ce que, par exemple, le fait que tu m'appelles mon cœur fait que je dois t'appeler mon cœur, ou est-ce que tu es d'accord avec le fait que tu peux m'appeler comme ça ? Moi, ça me va, mais que j'ai pas forcément envie de t'appeler pareil. Et je trouve ça vraiment intéressant de clarifier cette dimension. Et il y a des étiquettes qui, pour moi, se prêtent moins à ça. Généralement, quand tu vas dire « c'est mon copain », tu voudras que la personne dise la même chose, potentiellement. Donc il y a des étiquettes qui pour moi impliquent un petit peu une réciprocité d'application, alors qu'il y en a d'autres qui ne le nécessitent pas. Donc voilà, ça peut être intéressant là-dessus aussi de discuter des différences qu'il peut y avoir. Parce qu'on a le droit de souhaiter des étiquettes différentes pour soi et pour l'autre, même dans une relation en commun.
Et un dernier point qu'on n'a pas abordé, et après on va devoir arrêter l'épisode, c'est que pour certaines personnes, une étiquette, ça peut vraiment être une valorisation importante, c'est quelque chose qui peut faire donner beaucoup d'importance quand on apprend, quand on dit « ah oui, je suis le copain de quelqu'un », ça peut être quelque chose de très positif pour quelqu'un, ça peut lui apporter des choses, et c'est important de savoir que la valeur que ça peut avoir pour des gens.
Ouais, c'est une forme de reconnaissance éventuellement.
Ouais.
Ouais, je terminerai peut-être là-dessus en disant que ces étiquettes valorisantes, elles peuvent aussi venir du fait qu'on parle pas toujours facilement de l'attachement qu'on a aux gens. Et donc, n'hésitez pas à dire aux personnes qui vous entourent que vous les aimez, que vous les appréciez, que vous les trouvez extraordinaires, parce que, effectivement, ça fait toujours plaisir de recevoir ce petit cadeau de la part de ses proches. Et une étiquette, c'est bien, mais il existe plein de mots pour formuler cet attachement et les émotions que les gens nous font vivre.
Grave, prenez tous vos téléphones et envoyez des cœurs à vos amis.
Donc on va conclure cet épisode dans lequel on a parlé des étiquettes, on a vu que parfois c'était utile, parfois il y avait des aspects négatifs si on n'y faisait pas attention. Et lorsque ça implique d'autres gens, les étiquettes, c'est comme pour tout dans les relations, il faut en discuter avec ses partenaires. Est-ce que vous avez des mots de la fin ?
Bah, on se retrouve au congrès du saucisson.
Moi, je veux dire à mes auditeurs et auditrices que je qualifie et que je labellise de discuter de leurs étiquettes et de ce avec quoi elles et ils se sentent confortables. Voilà.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast en est à ses débuts et on est avide de vos retours. N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur contact@atesamours.fr et on se fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez trouver le transcript et les sources de cet épisode sur notre site atesamours.fr. À bientôt pour le prochain épisode.